Je vous rappelle un petit peu où nous nous étions quittés. Nous avions vu Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort comme le dernier des Béruliens. Hein, et nous avions vu aussi, pris un regard un peu plus large, sur tout ce siècle que on appelle désormais le siècle des mystiques. Donc le XVIIe siècle français. Et on avait commencé, si je ne me trompe, ensemble, le crépuscule des mystiques et saint Alphonse de Ligorie, donc mon chapitre 6. C'est bien ça? Nous sommes tous d'accord. Alors, vous verrez qu'après un XVIe siècle espagnol extrêmement riche, hein, un XVIIe siècle français, là aussi, qui a été foisonnant, de figures de sainteté, de mystique et aussi d'écrit, eh bien là, on va rentrer 18e, 19e, dans des périodes qui sont apparemment plus pauvres. Hein, et des périodes qui vont voir naître aussi un contexte beaucoup plus difficile et même carrément hostile, non seulement à la vie mystique comme telle, ce sera dans un premier temps, mais même à toute vie chrétienne. Alors, pour parler de ce 18e siècle, d'abord, il faut garder à l'idée que les populations et les sociétés restent massivement chrétiennes. Bon. Mais en même temps, vous le savez déjà, il y a la montée progressive d'une mentalité plus sceptique, premier temps, et puis carrément rationaliste et naturaliste. Alors, chez les élites, dans un premier temps, et puis petit à petit, hein, ça gagne le peuple tout entier. Alors, avant d'en arriver aux Lumières, vous avez des controverses qui vont épuiser un peu l'Église. Ça, je crois que c'est très important, vous savez, le XVIIIe siècle. Ça n'est pas d'abord le siècle des Lumières, il faut que vous ayez ça en tête, c'est le siècle des controverses religieuses, puis des Lumières. Hein, quand on dit les Lumières, alors évidemment, c'est les Lumières françaises, mais l'Enlightenment britannique, c'est l'Illuminismo italien, c'est l'Aufklärung de toute la partie de culture germanophone. Hein. Donc les Lumières européennes. Mais retenez ça, hein, le XVIIIe siècle, c'est d'abord un siècle de controverses religieuses, et c'est un peu ces controverses qu'on va commencer à voir ensemble, parce que elles ont des répercussions immédiates sur la vie mystique. Alors ces deux controverses, c'est d'abord et avant tout le jansénisme et, de façon secondaire, le quiétisme. Mais il se trouve que si le courant du quiétisme en soi n'a pas beaucoup de consistance, vous verrez que sa condamnation a eu par contre des conséquences importantes. Ça vous donne un peu le cadre. Hein ? Donc je commence avec le jansénisme. Bien. Vous le savez, la spiritualité chrétienne est périodiquement menacée par des excès dont l'origine est presque toujours liée à un problème très délicat, celui des relations entre la grâce et la nature humaine. Hein, cette espèce de jeu mystérieux, évidemment, entre la grâce et la nature humaine. Eh bien, le mouvement janséniste a représenté une de ces dérives. Autant il est possible d'exalter la nature humaine au point de rendre inutile la grâce ou sans intérêt, ça avait été un peu la tentation de l'humanisme, hein, de l'humanisme de la fin du Moyen-Âge en Italie et puis de ses reviviscences. Autant il y a ce risque, autant il y a le risque inverse dans lequel sont tombés jansénistes et quiétistes, on va voir sous quel rapport, d'exalter la grâce divine. Alors, le problème des quiétistes, ça a été d'exalter tellement la grâce divine que du coup, l'effort humain, la participation humaine est considérée comme inutile. Et puis, risque d'exalter la grâce divine, alors du côté des jansénistes, en dépréciant la nature de l'homme considérée comme totalement corrompue et incapable de tout bien. Alors, faisons connaissance avec les grandes figures, je vous les ai mises. Jansénus, un évêque d'Ypres, qui est à l'origine du premier stade du mouvement. Hein, parce que le jansénisme, c'est un mutant. Donc au départ, c'est une controverse théologique. Jansénus, son ami Saint-Cyran, vous voyez, on est à peu près la même génération. Une génération plus tard, vous avez le grand Arnaud, qui va diffuser une version beaucoup plus populaire, beaucoup moins théologique, beaucoup plus pastorale, avec des implications dans la vie chrétienne de tous les temps, donc de la vie de tous les jours. Le grand Arnaud, bon, c'est l'époque de Port-Royal, si vous voulez, c'est l'époque aussi des provinciales de Pascal. Hein, on est dans ce... Alors là, c'est un débat qui est un débat sur la place publique. À grand effort d'écrits de controverse, et puis souvent par des très grandes plumes. Et puis, alors, une date très importante, 1713, c'est la bulle Unigenitus. Donc théoriquement, on aurait pu penser c'est une prise de position du pape, donc la plus haute autorité de l'Église, qui prend position, qui condamne le jansénisme. On pourrait penser que c'est un point final. En fait, le brasier repart de plus belle. Et là, alors, on entre dans un conflit très très complexe dans lequel vous avez à la fois des aspects théologiques, spirituels, moraux et politiques. Tout est lié, vous voyez. Bon. Donc c'est un peu voilà, les quatre dates, vous voyez, à retenir à propos du jansénisme. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien, vous vous souvenez déjà que chez les Béruliens, on avait vu déjà cette théologie augustinienne assez pessimiste, hein, déjà pointer son nez. Là, on va évidemment beaucoup plus loin, on pousse plus à fond ses prémices. Au point de départ, de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un débat entre théologiens et d'une réaction contre la tendance des humanistes dévots, les jésuites par exemple, hein, et pas uniquement, à exalter la liberté humaine et la coopération de l'homme à son salut. Alors, à partir de là, voilà le point de départ. À partir de là, vous avez ce mouvement janséniste, je le redis, polychrome, multiforme, donc qui prend des visages un peu différents avec le temps. Il a évolué avec le temps, de fait, présenté des visages changeant. Alors, quand on parle de jansénisme, de quoi parle-t-on ? Au sens large, vous avez un système théologique, mais aussi un mouvement à la fois théorique et pratique, avec des options pastorales, disciplinaires, discipline des sacrements, par exemple, l'accès à l'Eucharistie, verrouillé, ecclésiologique. Une vision ecclésiologique qui petit à petit va évoluer vers, avec le richérisme, on va le voir, une sorte, dans un premier temps, une sorte d'épiscopalisme, et puis même un épiscopalisme, je cherche le mot, une sorte de sacerdotalisme, de presbytérisme, voilà, où finalement l'autorité descend, vous voyez, les échelons. Donc aussi des options réformatrices, des options politiques et des options spirituelles. Alors, je m'en tiens au dernier point avec vous, hein, on ne va pas tout faire. Ce qu'il faut souligner, je crois, c'est l'opposition farouche à l'égard de l'optimisme moliniste. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Et de l'humanisme en général. Et l'augustinisme extrême et rigoriste. Alors, vous avez un auteur anglo-saxon, Oman, qui en tire le bilan, et je le cite parce que c'est intéressant. Sous le prétexte de rendre les chrétiens plus dignes de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Vous voyez cette idée, être digne d'eux. Sous le prétexte de rendre les chrétiens plus dignes de l'amour et de la miséricorde de Dieu, les jansénistes, les coupés de Dieu, en leur inculquant une peur qui confinait au désespoir et un esprit de pénitence qui violait les lois fondamentales de la charité et de la piété. Préoccupé comme il l'était de l'absolu besoin en l'homme de la grâce et de son incapacité à faire quoi que ce soit pour se disposer lui-même à cela, ils opéraient une distorsion du christianisme en une religion du pessimisme et des scrupules. En même temps, leur souci d'eux-mêmes évolua bientôt en un orgueil et un égotisme consommé, spécialement évident chez Saint Cyran et la mère Angélique. Bon, c'est pas une analyse théologique, mais enfin, vous connaissez le mot célèbre sur la mère Angélique et ses sœurs de Port-Royal. Elles étaient pures comme des anges, mais orgueilleuses comme des démons. Bien. Bon. Le résultat de tout cela fut une spiritualité d'un moralisme austère qui se coupa avec beaucoup d'arrogance du grand courant de la vie catholique. Évidemment, les purs, c'était eux, et donc, ils se sont vraiment coupés petit à petit. Vous avez un autre auteur anglo-saxon, No, qui a ce jugement intéressant. Les adhérents donc, du jansénisme oublièrent par-dessus tout de croire en la grâce, tout omnubilés qu'ils étaient par le besoin de cette grâce. Bon, c'est assez bien vu, on voit bien ce que ça veut dire. Voyez. Tellement omnubilés par le besoin de la grâce que, fondamentalement, ils perdent le sens de la grâce. Et de ce que la grâce produit, de facto, hein, dans le baptisé. Alors, ce jansénisme politico-religieux du XVIIIe siècle, hein, dans toutes ces variantes, si vous voulez, dans tous ces aspects, ne survécut pas à la Révolution française. Mais cette tendance rigoriste, pessimiste, etc., prolongea, elle, ses effets jusqu'au XXe siècle. Et alors, moins maintenant, mais enfin, on trouvait encore, il n'y a pas si longtemps, chez des anciens, des gens qui avaient été marqués un petit peu par une sorte d'éducation jansénisante, hein, et notamment qui entretenait une très grande peur dans leur relation avec un Dieu terrible, et du coup qui nourrissait facilement des scrupules, qui mettait l'accent sur la mortification, la pénitence, et qui tenait facilement les fidèles à distance des sacrements par crainte d'indignité. Alors, il ne faut quand même pas les accabler de tous les maux, ces pauvres jansénistes, c'est que si, d'un point de vue spirituel, ils manifestent une certaine défiance vis-à-vis de la prière personnelle et de la méditation en particulier, par contre, ils ont encouragé la prière liturgique. Donc, voilà un petit peu pour le jansénisme. Vous voyez qu'il y a des conséquences, hein, qui vont donc traîner au long du 19e et du début du 20e, enfin, même la première moitié du 20e. Donc, premier point. Deuxième point, la menace quiétiste, je préfère élargir le titre en incompréhension de la mystique. Non, on va voir le lien. Pour ça, je remonte un petit peu dans le temps, parce qu'il y a une préhistoire à ça. Ce sera un rappel pour une part. Vous vous souvenez, on l'avait déjà un peu évoqué, au XVIe siècle, en Espagne, la crainte des alumbrados, hein, de ces illuminés qui jettent de proche en proche le soupçon sur des figures, sur des œuvres parfaitement orthodoxes. Donc la crainte de l'illuminisme, petit à petit, vous voyez, instille un certain soupçon, une crainte. Bien. Des théologiens sans expérience s'empressent de condamner des réalités qu'ils ignorent. Dans la compagnie de Jésus, petit rappel, vous vous souvenez, le Père Aquaviva, cette ces tensions à l'intérieur de la compagnie, entre ceux qui disent « mais le modèle, c'est Ignace », et de toute façon, la dominante de la compagnie, c'est d'être apostolique, donc pas de vie mystique chez nous, Et inversement, ceux qui pensaient qu'il pouvait y avoir une vraie vie mystique. Alors vous vous souvenez un petit peu comment le père Acquaviva, le général, avait très sagement mis fin un peu au conflit en disant, bon, de facto, la compagnie a d'abord une visée apostolique, mais en même temps, ça n'empêche pas, évidemment, non plus une vie mystique. Donc il avait apaisé les esprits, et en même temps, vous voyez, une nouvelle polémique surgit un peu plus tard. Alors, c'est le nom que je vous ai mis, Louis l'Allemand, qui meurt en 1635. Alors, c'est un homme de grande qualité, un des grands spirituels jésuites, et un homme qui était tellement de grande qualité qu'il était formateur des jésuites du troisième ordre. Donc, vous voyez, ceux qui sont déjà prophètes jésuites et qui, après un temps important dans la compagnie, font ce troisième ordre, qui est vraiment une étape importante, et bien, lui était formateur de ces jésuites-là. Et Louis l'Allemand identifie la perfection avec la conformité au vouloir divin, bon, rien de très original, mais il développe aussi toute une doctrine mystique appuyée notamment sur la doctrine des dons du Saint-Esprit. Et pour lui, la contemplation, entendez vraiment la contemplation mystique, hein, avec l'action des dons du Saint-Esprit, est la source de toute action apostolique efficace et vraie. Elle est, pour lui, par conséquent, indispensable à une vocation jésuite. Eh bien, ce pauvre père l'Allemand a été dénoncé au père général parce que trop mystique. Et alors, vous me direz, l'affaire s'est bien terminée, il a été totalement disculpé, son provincial s'est beaucoup engagé à ses côtés, mais vous voyez un petit peu que tout n'est pas tout à fait apaisé. Hein, et que, y a, en tout cas dans une partie de la compagnie, des craintes qui se manifestent. Bon, premier indice. Deuxième indice, alors là, du côté des Carmes, c'est la publication de l'œuvre de Saint Jean de la Croix. Bon, Saint Jean de la Croix est mort en 1591. Eh bien, il a fallu attendre 1618, donc un peu moins de 30 ans quand même, hein, plus de 25 ans disons, pour que son œuvre soit publiée. Mais c'est pas le plus gênant. Le plus gênant, c'est que cette œuvre publiée a été d'abord ni complète, il y a des œuvres qu'on a retirées, ni fidèle. C'est-à-dire qu'on a repris le texte parce que, pour soi-disant le rendre plus acceptable, plus recevable, vous voyez, on a édulcoré un petit peu une partie de son œuvre. C'est quand même intéressant, hein, et ce sont les Carmes qui ont fait le travail de publication. Vous voyez que même chez les Carmes, on se méfie, quoi. Et, oh là là, faut pas tout dire. Donc vous voyez, climat, des petits indices de ce climat de méfiance, de suspicion qui se forme dans l'opinion. Alors, vous savez, là, quelqu'un qui a une grande responsabilité, c'est le cardinal de Richelieu, donc le premier ministre, si vous voulez, du roi Louis XIII, qui a comme opposant politique une partie du parti dévot. Alors, et par conséquent, pour se débarrasser d'eux un petit peu, il va les taxer d'illuminisme, etc., etc. Non, c'est le cas, évidemment, de Bérulle. Et vous avez aussi des cas, ça arrive toujours, hein, dans une société chrétienne très ardente comme celle de cette époque, qui vit quand même toute la réforme du Concile de Trente, vous avez des cas de déséquilibre, des cas de déviation, évidemment. Alors on se saisit un peu de ces cas et on en fait un peu des figures épouvantail. Hein. Donc ces cas malheureux sont exploités au préjudice des authentiques spirituels. S'ajoute à ça de plus en plus, donc, je vous l'ai dit, le jansénisme, Port-Royal, qui se montre assez réticent à l'égard des tendances mystiques et qui les déconseille. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de choses qui jouent un petit peu contre la vie mystique. Et puis, c'est là où on va voir arriver le quiétisme qui, d'une certaine façon, va renforcer encore ses soupçons. Alors, pour l'instant, on en est où ? Ben, on en est que, on affirme volontiers, souvent, que l'âme ne doit pas se laisser guider par les goûts spirituels. Bon, je dirais que ce n'est pas tout à fait faux. Enfin, il faut comprendre dans quel sens on dit ça. Mais on ajoute, voilà, il ne faut pas qu'elle se laisse guider par les inspirations intérieures. Il ne faut pas qu'elle s'aventure hors des sentiers de la raison. Guidée par la foi, évidemment. Mais vous voyez, on essaye vraiment de baliser le sentier. Surtout, il ne faut pas qu'on s'aventure dans des sentiers non connus. Le nœud de la question, estime Don Houry, c'est la légitimité des états supérieurs de la contemplation passive. Que se passe-t-il quand vous avez quelqu'un qui est élevé comme ça à des états, bon, rares évidemment, assez déconcertants, mais qui existent? Voilà. Que faire? Est-ce qu'on les traite tout de suite avec méfiance en leur disant qu'ils sont victimes d'illusions, ou au contraire, est-ce qu'on est capable de les accueillir, de les aider, de les soutenir, et du coup de permettre à l'Église de profiter des fruits de gens comme ça qui vivent une expérience mystique authentique? Alors, vous avez deux condamnations qui vont jouer beaucoup. C'est les deux qui sont là, vous voyez, Michel de Molinos et François Malaval. Alors, Michel de Molinos, Miguel de Molinos est espagnol, François Malaval est français. Alors, Miguel de Molinos est espagnol, mais il a vécu quasiment toute sa vie religieuse à Rome. Hein. Alors, je vous ai mis les dates des condamnations, 1687, 1688... Vous voyez que les condamnations du quiétisme français, Madame Guyon, 1695, 1699, vous voyez qu'on est, un groupe de condamnations hein, en 12 ans. Fin du 17e, vous voyez, il y a un tournant là. Hein, fin du 17e. Et puis je vous ai mis la date du décès. Alors, Vitellici, c'était donc le général qui finalement a soutenu le père Lallemand et finalement... Disculpez pour avoir des explications des noms. Donc, qu'est-ce qu'il en est avec ces deux condamnations? Bon, on va voir ce qu'il en est, hein, sur quoi ont porté les condamnations, mais le résultat, déjà, je vous le donne, c'est que l'opposition prend désormais une forme plus systématique et puis elle revendique des bases doctrinales solides, évidemment les actes des jugements des condamnations. Donc, on met de plus en plus systématiquement les âmes en garde contre ce qui n'est pas contrôlé étroitement par la raison. On tend à les écarter de l'oraison passive qui pourrait conduire à l'illusion. Vous voyez, la méditation, oui, la méditation sur des sujets bien balisés, pas de problème, mais au-delà, attention, attention, attention. Alors, regardons maintenant le quiétisme d'un peu plus près. Il n'y a pas eu que des malentendus. Hein. Il y a aussi des ambiguïtés réelles et même des erreurs graves. Alors, le quiétisme, c'est un peu comme le jansénisme, c'est-à-dire que sous le mot, sous l'étiquette, vous avez des courants, des réalités très diverses. Vous avez même des gens qui vous disent « le quiétisme, c'est en fait un phénomène religieux ». Pas propre seulement au christianisme, il faut y mettre aussi le soufisme, etc., etc. Bon, on n'en sort plus. Donc, c'est pour vous dire que c'est difficile, évidemment, quand on utilise des mots, il faut les préciser. Alors, pour l'essentiel, le quiétisme se présente comme une voie spirituelle qui promeut l'abandon et la passivité. Vous voyez les mots, hein ? Abandon, passivité, et qui vise au pur et simple amour de Dieu. Abandon, passivité, pur et simple amour de Dieu. Alors, en soi, vous pouvez avoir une interprétation de cela qui est tout à fait orthodoxe, et vous pouvez très bien mettre telle ou telle partie de la vie flamme, du cantique spirituel, pour cautionner une telle attitude. Encore faut-il être comme Jean de la Croix, ou en tout cas être attentif, par exemple, aux critères que donne Saint Jean de la Croix, en disant, voilà, là, l'âme peut être passive, là, au contraire, il faut que l'âme reprenne son activité, et même dans la passivité, voilà quand même quelle est l'action de l'âme. Là, vous voyez, le risque, évidemment, c'est que si on pousse ça à bout, vous avez la personne humaine est finalement complètement absente. Et le risque est d'aboutir aussi à une forme de dédoublement où l'âme est censée se perdre en Dieu et le corps est abandonné, lui, à ses tentations, y compris ses tentations sensuelles. Alors, il s'agit de ne pas faire obstacle au don de la contemplation. Donc, vous voyez, l'âme est perdue en Dieu et le reste, il fait ce qu'il veut, quoi. Historiquement, quand on regarde maintenant les auteurs, on s'aperçoit que certains ont été considérés comme quiétistes alors qu'ils enseignaient simplement l'oraison de quiétude dans la suite d'illustres prédécesseurs. C'est pour ça que je vous ai mis le nom de Jean Falconi. Vous voyez, on est 50 ans avant ses condamnations. Jean Falconi est considéré par certains comme quiétiste. Alors, si on veut, mais rajoutons qu'il est tout à fait orthodoxe. Il enseignait simplement une oraison de quiétude. Mais il a été critiqué de son vivant pour son insistance sur la passivité de la contemplation et sur l'importance de l'acte de foi, vous voyez, l'importance de l'acte de foi au détriment des autres vertus. Bah, lui mettait l'accent là-dessus, vous voyez. Alors du coup, on a traduit, les autres vertus n'ont plus d'importance pour lui, il n'encourage pas à les utiliser. C'est de lui faire un procès, oui.
Pardon, je ne vois pas le rapport entre cette passivité et le pur amour. Quel lien ils font entre les deux?
Eh bien, le lien entre les deux, c'est que il y a quand même une finalité. La passivité en soi, ce n'est pas un but. C'est vraiment pour vivre ce pur amour où l'âme est d'abord aimée et se livre complètement à cet amour. Elle se livre donc dans la passivité pour que rien, surtout en elle, ne puisse faire obstacle à ça. Hein, et ce dégagement aussi de soi absolu, c'est vraiment tout pour Dieu. Donc
le pur amour comme réception, j'enlève tout ce qui a cette passivité en vue de recevoir le pur amour de Dieu.
Et puis aussi, alors il faut compléter aussi...
C'est pas la personne, donc, le pur amour. C'est ce que je reçois.
Oui, c'est ça. Mais c'est aussi, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée que du côté de l'âme, elle est complètement désintéressée, tu vois. Il n'y a vraiment rien pour moi, j'attends rien en retour, et j'attends pas en retour, par exemple, des lumières pour l'action, j'attends pas en retour une force pour l'apostolat, c'est là où c'est le grand écart avec, par exemple, une spiritualité ignatienne bien comprise, quoi. Bon, Malaval, donc, qui a été condamné quand même en 1688, se voit reprocher d'assimiler la prière de simple regard à la prière de simple présence de Dieu et de donner à penser qu'il veut conduire tout le monde à la contemplation. Alors ça, c'est aussi un reproche qu'on lui fait en disant, à vous lire, enfin, tout le monde est fait pour ça et... Il y a peut-être de sa part, alors soit des malentendus sur les lecteurs, l'auditoire visé, et peut-être aussi un problème, alors du côté de Malaval, dans, je dirais, le respect du temps des personnes, et puis le respect de toutes les stades intermédiaires avant d'arriver à des états comme ça. Voilà. Mais surtout, c'est Miguel Molinos, donc vous voyez, condamné en 1687 et mort en 96, qui est considéré vraiment comme le cher prophète du quiétisme. Je cite Oman, le cher prophète du quiétisme. Là, on a vraiment, je dirais, le quiétisme dans son état chimiquement pur et inacceptable aussi. Le thème central de son enseignement, c'est que l'âme doit s'abandonner elle-même complètement à Dieu à travers la prière de simple regard en rejetant toute autre dévotion et pratique. Alors, j'ajoute une chose. Et en cultivant une indifférence absolue envers tout ce qui peut lui advenir, que cela vienne de Dieu, de l'homme ou du démon. Alors, vous me direz, de Dieu, c'est pas gênant. De l'homme, à la limite, on peut comprendre en quel sens c'est utilisé. Mais du démon, ça veut dire aussi, bon, je fais la planche, hein, puis par rapport aux tentations du démon et au combat spirituel, je sais, il n'y a pas de combat, quoi. Et avec l'idée que de toute façon, c'est pas gênant, puisque l'âme est déjà prise par Dieu. Voilà. Alors, il fut condamné pour sa doctrine, mais aussi pour immoralité avérée. Donc, là, on avait beau jeu de dire, ben, regardez comment il vit. C'est bien la preuve que sa doctrine est complètement fausse et dangereuse et perverse. Bon. Alors, ce fut un coup mortel pour le quiétisme en Italie. Donc, vous voyez, la condamnation de Miguel de Molinos, c'est vraiment l'Italie. Là, on peut dire que le quiétisme a pris un coup sur la tête. En France, c'est la grande querelle de Fénelon et de Bossuet. Bossuet, l'aigle de Meaux. Meaux, la ville épiscopale, son siège épiscopal. Hein.
Le signe de Cambrai.
Et avant, le signe de Cambrai. Ah, c'est un homme bon, qui est... il a un peu de caractéristiques, c'est que... C'est un des plus grands auteurs français enfin, dans l'art oratoire, bon, des homélies extraordinaires, bon, une plume, une très grande plume. Mais c'est aussi un homme qui a ferraillé contre à peu près tout ce qui existait de son vivant. Et donc il a croisé le fer avec les protestants, avec les premiers, avec le père Simon, un des tout premiers l'oratorien, un tout premier inventeur, enfin, un des pères de l'exégèse moderne, si vous voulez, avec Fénelon, avec... enfin bref, un homme de la controverse. Voilà, je pense qu'il lui fallait, autour de lui, pouvoir se battre pour être heureux. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce débat entre Bossuet et Fénelon autour de Madame Guyon? D'abord, il y a une chose importante, c'est que le quiétisme, je crois qu'il faut le remettre dans ses justes proportions, c'est un courant qui, contrairement au jansénisme, a été très circonscrit. Ça n'a pas touché les masses. On peut dire que c'est un courant aristocratique qui touche une petite élite. Il ne s'est pas relevé de sa condamnation. On peut dire que les quiétistes sont beaucoup moins combatifs, c'est le moins qu'on puisse dire, que les jansénistes. Les jansénistes, la condamnation de Unigenitus, alors là, ça en a fait des combattants terribles, hein, jusqu'au bout. Là, on peut dire que le quiétisme s'est complètement écroulé, mais ce qui nous intéresse, vous voyez, ce n'est pas le fait qu'il y ait eu beaucoup de quiétistes, ce qui nous intéresse, c'est que la condamnation portée à l'occasion du débat Bossuet contre Fénelon a augmenté le discrédit qui pesait déjà un petit peu sur la mystique. Ça, vous voyez. Donc, c'est pas tant... Là, ce qui est intéressant, vous voyez, le jansénisme, ce qui a été terrible, c'est la tentation que ça représentait pour la vie chrétienne, pour la représentation, la juste représentation des relations entre Dieu et l'homme. Donc là, il y avait vraiment une tentation très grave. Avec le quiétisme, la tentation, finalement, n'a pas été très importante. Ce qui a été grave, c'est le remède. C'est la condamnation qui est tendue à porter à conséquence. Alors, faisons connaissance un peu avec les protagonistes. Madame Guyon, vous voyez, morte en 1717, une veuve, mystique et déséquilibrée tout à la fois. Voilà, ça existe. Mystique et déséquilibrée tout à la fois. Bon. Elle a beaucoup écrit, même si la plupart de ses textes ont été publiés en Hollande, pour éviter la censure, évidemment, et certains sous d'autres noms. C'est ainsi que l'abandon à la providence divine du père de Caussade, qui est considéré aujourd'hui comme un texte tout à fait remarquable, hein, serait ou doit vraisemblablement beaucoup à Madame Guyon. Il pourrait même lui être attribué pour une large part. Oui. Donc vous voyez, tout est... Je crois qu'avec elle, il faut reconnaître aussi une expérience authentique et en même temps portée par une déséquilibre. Alors, ce qui est possible, c'est que le père de Caussade ait mis du discernement et sa sagesse et son savoir de théologien pour corriger éventuellement et traduire ce qu'il avait reçu de Madame Guyon d'une manière tout à fait juste et nourrissante. Bon, alors, il reste, oui, c'est ça, que certaines des affirmations de Madame Guyon ont de quoi inquiéter. Je vous lis ceci. Hein. C'est la volonté mauvaise et non l'action qui constitue l'offense. Oui, autrement dit, si ma volonté est vraiment attachée à Dieu, si j'aime Dieu, bon, les actions que je peux faire, c'est pas très important, quoi. Et elle va un peu plus loin. Si quelqu'un dont la volonté est ailleurs, et ainsi qu'il arrive, est englouti et transformé en Dieu. Alors écoutez bien, donc si quelqu'un dont la volonté est ailleurs, et ainsi qu'il arrive, est englouti et transformé en Dieu, si cette personne était réduite par la nécessité à commettre des actes pécamineux, elle les ferait sans péché. Bon, c'est une théologie morale discutable, on va dire. Voilà. Des indices donnent à penser qu'elle-même ne se confessa plus pendant 15 ans. Alors, peut-être qu'elle avait considéré qu'elle était à un niveau de sainteté qui lui permettait de ne plus avoir besoin de la confession. Enfin, voilà. Alors, le conflit maintenant. Le conflit a des causes très complexes. Il y a d'abord, au point de départ, des alarmes de plusieurs ecclésiastiques qui sont un peu affolés d'entendre ce qu'ils entendent. Et le conflit oppose Fénelon, jeune ecclésiastique à ce moment-là, fidèle mais inexpérimenté soutien de Madame Guyon. Donc le brave Fénelon, qui est un très brave homme, qui est vraiment un peu le chevalier servant, mais enfin, en tout bien tout honneur, hein, évidemment, de Madame Guyon. S'oppose donc à Bossuet, le juge, qui lui est tout à fait étranger au mystique. Bon. Vous avez un premier jugement, 1695, qui incrimine les doctrines mais sauvegarde les personnes. Vous voyez, on cite personne, bon, on dénonce une doctrine, mais on ne met pas en cause quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'on demande le silence. Madame Guyon n'observe pas le silence qui lui a été demandé. Elle se met à écrire, etc., etc. Bossuet, de son côté, publie un écrit qui durcit ses positions précédentes. Donc, vous voyez, dans les deux camps, il y a un camp qui ne tient pas ses engagements et l'autre qui durcit ses positions. Et il en vient à condamner explicitement la mystique. Fénelon, à ce moment-là, prend la plume et le débat s'envenime. Alors, les points au centre du débat, la prière passive, le pur amour, etc. Alors, à ce moment-là, des tas de théologiens interviennent, le débat arrive sur la place publique, on prend position, on se passionne pour ça, vous voyez, on entre dans ce 18e siècle, d'abord siècle de controverses religieuses. Ça va être vrai, a fortiori avec le jansénisme, mais vous voyez, déjà, on prend position. On écrit, même ceux qui connaissent rien, le public est pris à témoin, etc. etc. Bon. Chacun prend parti, pour, contre, etc. Et puis, comme souvent, la question prend un tour politique. Le roi s'en mêle. Bon. Et il y a un appel au pape. Donc, bataille à Paris, bataille à Rome, et finalement, plusieurs propositions tirées d'un écrit de Fénelon, vous voyez, je vous l'ai marqué, l'explication des maximes des saints, furent condamnées par le pape en mars 1699. Alors, Fénelon se soumet tout de suite, et il se soumet tellement bien que, du coup, on le récompense du cardinalat. Enfin, n'empêche, donc la personne est sauve, mais plusieurs ouvrages de spiritualité sont mis à l'index. Donc, et c'est ça, ce qui est très gênant, grave. Donc je le redis, si le quiétisme comme tel a eu peu d'impact sur la spiritualité catholique, sa condamnation a eu des effets importants en renforçant une sorte de peur instinctive envers tout ce qui sort des voies communes. Alors, ce qui est un peu paradoxal, c'est que Madame Guyon a eu quand même une certaine postérité là où on ne l'attend pas, c'est-à-dire dans certaines branches du protestantisme, en particulier auprès de John Wesley, le fondateur du méthodisme. Alors, vous avez, donc en France, la condamnation de Fénelon, de Madame Guyon, plus la permanence du jansénisme, alors là, l'un et l'autre, vous voyez, vont faire que on va insister désormais sur l'ascétisme, sur le rigorisme moral, sur la défiance de soi, sur le rejet de tout plaisir humain, mais vraiment pas sur les chemins mystiques. Alors, il faut quand même regarder toute l'Europe. L'Italie s'était spontanément opposée au quiétisme, donc elle a eu moins à souffrir du rejet global de la mystique. En Allemagne, la situation est plus complexe parce que, bon, l'affaire Fénelon-Bossuet a moins pesé, c'est vrai, mais vous avez le rationalisme de l'Aufklärung et ce qui est un peu, si vous voulez, en France, les Lumières ont été, de toutes les Lumières européennes, les plus antichrétiennes. En Allemagne, avec l'Aufklärung, vous avez des Lumières qui, pour grand nombre d'entre elles, continuent de confesser le christianisme. Mais vous avez du coup une contamination du christianisme par un rationalisme. Et donc là, ça va atteindre aussi la vie mystique, évidemment. Alors, en même temps, ce qui va contrebalancer un peu en Allemagne, c'est l'essor du piétisme protestant et, par exemple, les visions d'Anne-Catherine Emmerich. Alors, une mystique qui a eu des visions, des phénomènes tout à fait extraordinaires. Du coup, ça va passionner beaucoup de gens et on va beaucoup écrire sur elle. Donc du coup, vous voyez, selon les pays, la situation n'est pas tout à fait la même.
Et ça, c'est le 19e, Emmerich.
Là, on arrive au 19e, fin 18e. Emmerich, c'est même... elle vit déjà au 18e, hein, pour une part.
Ah bon.
Il faudrait que je retrouve les dates. Elle viendra quand je l'aurai sous les yeux. Alors, maintenant, j'en arrive, vous voyez. Là, on était fin, vous voyez les dates. Hein, on est fin 17e. On commence à entrer dans le 18e. Les grandes controverses du jansénisme, là c'est vraiment toute la première moitié du 18e, et on avance, et on arrive dans la plénitude du 18e, enfin je veux dire, là, avec aussi les Lumières. Donc là maintenant on va voir un petit peu ce 18e siècle, voilà comment le présente Don Houry. Ce n'est pas le désert, mais le siècle des petits livres de dévotion. Ce n'est pas le désert, mais le siècle des petits livres de dévotion, notamment des recueils de méditation. Alors, il n'y a pas que ça, hein. Il faudrait y joindre d'innombrables manuels de pratiques ascétiques et de très nombreux traités dans lesquels on analyse avec tout l'outil scolastique la mystique, alors de façon très théorique, très doctrinale, Là, vous avez des travaux considérables, des ouvrages énormes qui ont été faits à cette époque. Mais à cette époque, s'opère une rupture dans l'université et chez les auteurs entre, alors retenez ça parce que c'est important, entre la spiritualité d'un côté et la théologie générale de l'autre. Vous voyez ? Voilà. C'est 18e, la rupture entre la spiritualité et la théologie.
Ça, c'est au niveau universitaire.
Alors. Oui, au niveau universitaire. Vous avez la théologie qu'on étudie, théologie, voilà, c'est sérieux, c'est la raison qui travaille sur le donné de la foi, c'est scientifique. Bon, on dira ça plutôt au 19e, l'adjectif scientifique. Mais vous voyez, la spiritualité va être marginalisée, quoi, à l'université. Et vous avez une deuxième distinction qui va devenir bientôt séparation entre l'ascétique et la mystique. L'ascétique et la mystique. Alors, le coupable, en quelque sorte, c'est un jésuite qui s'appelle Jean-Baptiste Scaramelli, donc vous voyez, première moitié du 18e, mais dont deux ouvrages très importants sont publiés après sa mort. Vous avez le Directorio Ascetico et le Directorio Mystico. Hein, les deux sont séparés. Et désormais, on peut dire que le schéma va être repris à peu près partout. Le même Scaramelli propage, c'est le premier, semble-t-il, en tout cas avec autant d'influence, la théorie que la perfection de la vie chrétienne est en soi indépendante de l'expérience mystique et qu'elle se réalise le plus souvent dans l'état ascétique. Vous voyez ? Tu veux être un bon chrétien, tu veux devenir même parfait dans la vie chrétienne, eh bien tiens-toi à l'ascétique. Là, travail, hein, travail, travail, travail. Mais la mystique, c'est un plus. Un plus dangereux, hein, en plus, il faut faire attention. Mais ça ne fait pas partie, vous voyez, ça n'est pas constitutif de la perfection de la vie chrétienne. Alors, un mot des Lumières. Bon, vous connaissez bien, c'est pas la peine de développer beaucoup, le fait que le rationalisme va dominer de plus en plus l'horizon culturel, pas l'horizon mental, hein, du peuple chrétien, mais l'horizon culturel, et déployer une nouvelle vision antichrétienne de la vie et du monde. On peut dire que là, on a la première remise en cause aussi radicale des religions révélées. Donc vous aurez, pendant tout le XVIIIe siècle, bon, jusqu'à la Révolution française, des sociétés qui restent nominalement chrétiennes. On respecte habituellement un formalisme convenu. Mais vous avez un sécularisme rampant qui s'étend peu à peu aux esprits et aux divers aspects de la vie. Donc ça, c'est surtout pour la France. La mentalité nouvelle suscite, je le redis, un aufklärung catholique qui s'emploie à rationaliser les pratiques et le fonctionnement de l'institution ecclésiale. Alors là, c'est typique, un peu en Allemagne, mais beaucoup en Autriche, avec évidemment Joseph II, celui qu'on a appelé Joseph le sacristain. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un homme qui prend vraiment à cœur ce qu'il considère être sa mission. Alors, tout n'a pas été mauvais dans ce qu'il a fait, hein, c'est typique. Il ferme tous les couvents de contemplatifs. Pas par haine de la religion, mais avec l'idée que c'est inutile. Si les couvents dominicains voulaient, les abbayes bénédictines voulaient demeurer, il fallait qu'elle fasse œuvre utile. et donc, par exemple, qu'elles prennent des paroisses, qu'elles ouvrent des écoles, etc. etc. Oui, c'est cette idée que c'est pour la raison, vous voyez, pour, et c'est là où on voit un peu le filtre rationalisé. Quel intérêt ? C'est perdu. Alors, bon, l'intérêt, c'est que, bon, avec toutes c'est là où on voit, vous voyez, un peu à la fois le problème, et puis en même temps un certain désintérêt, parce que, bon, il va séculariser, de fait, beaucoup d'abbayes, mais avec l'argent des ventes, des domaines, etc., etc., il ne va pas le mettre dans son trésor royal, non, il va créer des nouvelles paroisses avec. Donc, vous voyez, l'encadrement pastoral, parce que ça, c'est important. C'est tout à fait révélateur d'une mentalité, vous voyez. Donc, un désintéressé, ce qui l'intéresse, c'est que le peuple soit encadré, donc la pastorale, ça, oui, voilà. Mais au détriment, donc, de la vie contemplative. Bon. Alors, là aussi, hein, il y a des aspects positifs, par exemple, le réveil de la conscience liturgique, mais, évidemment, méconnaissance de réalité proprement spirituelle. Alors, vous aurez, peu avant la Révolution française, les premières réponses à ce défi terrible du rationalisme. Et là, ça vient d'abord de l'ère germanophone, avec quelqu'un qui s'appelle Seiler, qui meurt en 1832. Donc, vous voyez, il appartient déjà aussi au 19e, hein, dont les écrits abondent sur défendre la mystique et les réalités surnaturelles contre les dénis des rationalistes. Vous voyez, une première plume. Alors, vous aurez un peu l'équivalent, mais plus tard, en France, avec un Chateaubriand, par exemple, le génie du christianisme. Bon, ça réhabilite quelque chose, vous voyez. Mais ça, j'en parlerai plus tard, parce qu'on est après la Révolution française. Seiler, vous voyez, prend les devants. Bon. Alors, aussi, on doit à Seiler, alors avant Müller et Schieben, qui sont des grands théologiens, des grands ecclésiologues du XIXe siècle, on lui doit d'avoir surétablir la conception mystique de l'Église, que l'Église, ce n'est pas seulement une société, ce n'est pas seulement des rouages, ce n'est pas seulement des institutions, et donc il rétablit une conception plus spirituelle, si vous voulez, contre une vision trop sociétaire issue de l'ecclésiologie tridentine. Et il précède, alors, un grand auteur allemand, Jean-Joseph Görres, qui meurt en 1848. Lui aussi va prendre la plume et défendre les mystiques contre le mépris des rationalistes. Alors, comme c'est l'heure, ben écoutez, nous arrêtons. Il est possible, de fait, qu'il y ait. J'ai besoin d'une demi-heure de plus, parce que là, c'est un petit retard. Mais bon, c'est pas dramatique. Une version quasi définitive, hein, qui aura.